Amis auditrices, amis auditeurs, bonjour, bienvenue sur les ondes de Radio Salve Regina. Rosemary vous retrouve pour la poursuite de la série d'émissions consacrée à l'histoire de notre couvent de Saint-Antoine à Bastia. Rendez-vous avec l'histoire. Que s'est-il passé après la mort du père Mariano? Nos archives sont quasi inexistantes. Il nous est donc très difficile de savoir ce que fut, durant ces 40 ans, la vie de nos frères de Saint-Antoine et des couvents de Lourdes et Santo Pietro di Tanda, Vescovato et Pozzobrando. Ce dernier fut fondé en 1558. C'est l'année de la mort du père Mariano. Celui de Vescovato fut abandonné en 1560 car nos religieux furent décimés par les épidémies et les habitants en reconstruisirent un autre dans un lieu moins insalubre en 1576. De quels autres renseignements disposons-nous de cette période entre les années 1560 et 1600 ? En cette même année 1560, le couvent de Belgodère est abandonné à cause des guerres passées de San Piero et du péril des Turcs, écrit Filippini. D'autre part, grâce à un manuscrit du père Filippo da Firenze, nous apprenons qu'en 1596, le nombre total des Capucins en Corse était de 41 religieux. I frati sono 41. Ces informations sont vraiment minces. Cependant, une fois replacées dans leur contexte historique, elles sont révélatrices des situations difficiles rencontrées alors par nos frères, comme d'ailleurs par l'ensemble de l'Église de Corse. En 1570, la Corse commence à peine à sortir d'une longue guerre qui, de 1553 à 1569, avait semé la ruine et la désolation sur toute l'étendue de son territoire. Rappelons-nous, par exemple, que le mercredi 23 août 1553 avait eu lieu le débarquement des troupes franco-turques sur la plage de Larinella, à 2 kilomètres des remparts de Bastia, avec prise de la ville. Par ailleurs, à partir de 1570, la République de Gênes, reprenant peu à peu son autonomie de gestion cédée autrefois à l'Office Saint-Georges ou Banque Saint-Georges, entreprit un effort réel pour donner à la Corse, comme à elle-même, des constitutions et une administration garantie d'ordre, de bien-être et de paix. En outre, il faut savoir qu'en 1570, les Corses ne pouvaient être assurées d'une subsistance honnête par un travail rémunéré. Aussi, bien que la guerre fût terminée, la population continuait à décroître du fait des famines, des épidémies, des pirateries turques et conséquences normales de l'expatriation. La population d'alors ne dépassait sans doute pas le chiffre de 100 000 habitants. Toute l'île était soumise aux incursions musulmanes. Le Cap Corse et le Nebbio furent tout particulièrement exposés aux razzias des pirates turcs et bien rares les villages qui furent épargnés. De plus, les famines de 1579 et 1582 ont laissé un souvenir horrible. À tout cela, il faut encore ajouter les épidémies. La peste de 1580 fut terrible. Venue d'Italie, elle gagna d'abord le diocèse du Nebbio pour s'étendre ensuite au diocèse d'Aleria et à toute la Corse. Les ravages furent effrayants. Monseigneur Alexandre Soli, le grand évêque réformateur, fut lui-même atteint d'une langueur et d'une faiblesse extrême. Le marasme moral qui s'était emparé des Corses les pousse alors à quitter un pays où il devenait difficile, sinon impossible, de vivre. À la fin du XVIe siècle, les seules ressources qui demeurent sont les châtaigniers et l'élevage des brebis et des chèvres. Les troupeaux errants dans la montagne sont hors d'atteinte des ennemis et fournissent le lait et la laine. Voilà pourquoi, dès 1571, Gênes entreprend une importante œuvre agricole en Corse. Elle y était d'ailleurs directement intéressée pour elle-même. Malheureusement, les résultats furent très en deçà des programmes. Il nous reste à parler de l'église de Corse d'alors. En 1570, on peut dire que les évêques ne résidaient pratiquement pas dans leur diocèse depuis plus de 100 ans. C'est pourquoi le Concile de Trente, visant la situation générale de l'Église, leur impose la résidence. L'état du clergé séculier était pitoyable, à tous les points de vue. De leur côté, les religieux avaient, eux aussi, besoin d'une sérieuse réforme. Les décrets du Concile arrivaient bien à leur heure et surtout, l'œuvre du grand évêque réformateur, Saint Alexandre Soli, qui allait renouveler la vie de l'Église de Corse. Chers amis, merci pour votre écoute fidèle. À très bientôt pour un nouveau rendez-vous avec l'histoire.